Chapitre 6. Tu es sûr que nous ne ferions pas mieux de nous séparer? Dit Tony mal à l'aise, car Simon la poursuivait obstinément de ses assiduités depuis longtemps. Le visage de bouffon de Simon se plissa dans un sourire. Détends-toi, répondit-il. Mon cœur est pris. Par qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis fiancé, proclama Simon triomphalement. Et qui est l'heureux élu? Le sergent Ruby Carson. La femme de la police d'Oxford? Elle-même. J'ai du mal à croire que j'ai tant de chance. J'ai finalement obtenu qu'elle sorte avec moi hier soir. Je lui ai dit sur le ton de la blague, « Tu devrais m'épouser. » Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Oui, pourquoi pas? Et elle était sérieuse? Ah oui, ce soir elle doit me présenter ses enfants. Ses enfants? Elle est divorcée? Oui, et elle a deux mômes. Jonathan, qui a 9 ans, et Pearl, qui en a 5. Mais elle, quel âge a-t-elle? Une petite quarantaine. Tu n'as même pas 25 ans, Simon. Tu ne devrais pas te précipiter. Je suis amoureux, dit Simon avec entêtement. Et si tu comptes jouer les rabat-joie, je préfère ne plus en parler. Cherchons plutôt cette maudite plante. Avant d'explorer les jardins du village, suggéra Tony lentement, si nous faisions un saut jusqu'à Ancombe pour jeter un coup d'œil à celui de Gwen Simple. Comme Agatha n'aboutit à rien avec elle, je crois qu'elle oublie qu'elle reste notre suspect numéro 1. Au cours du bref trajet jusqu'à Ancombe, Tony, tout en conduisant, se sentit inquiète pour Simon. Comme si Agatha ne suffisait pas, toujours obsédée par un homme ou par un autre. Mais Simon ne valait pas mieux. Il avait chanté sur tous les tons qu'il l'aimait plus que tout au monde, elle, Tony, avant de s'engager dans l'armée et de partir pour l'Afghanistan. Puis il était revenu fiancé à une femme sous-lieutenant, l'avait planté là, presque au pied de l'hôtel, et avait recommencé à lui faire, à elle, Tony, une cour pressante. Comme chez Agatha, il y avait décidément chez Simon quelque chose d'émotionnellement très immature. De surcroît, elle ne pouvait imaginer le jeune homme en beau-père. Et elle se rappelait Ruby Carson. Oui, c'était une beauté, mais aussi une policière très efficace et, Tony en était sûr, extrêmement ambitieuse. Au même moment, le commissaire divisionnaire Alistair White admirait les courbes voluptueuses et dénudées de Ruby qui venait de sortir du lit. Il est temps que j'aille chercher les enfants chez maman, dit-elle. Et puis tu sais, le plus prudent, c'est que nous ne nous voyons pas pendant quelque temps. Pourquoi? Personne ne sait rien pour nous deux. Je sais, mais je suis fiancée. Tu es quoi? Et à qui? À un jeune mec qui s'appelle Simon Black et qui travaille pour Agatha Raisin. Mais pourquoi diable? Ruby revint et s'assit au bord du lit. Il bosse pour cette agence Raisin et cette fichue bonne femme a résolu tant d'affaires qu'on n'arrive plus à les compter. Le petit Simon me tiendra au courant de ce qu'elle découvre, tu comprends? En attendant, il vaut mieux garder nos distances. Et puis, ta bourgeoise pourrait se douter de quelque chose. Et alors, gare à nos fesses. Vous êtes une dure, sergent Carson, dit White. Ruby sourit. Inspectrice Carson, ça sonnerait drôlement mieux, tu ne trouves pas? Gwen Simple habitait un pavillon à l'ombre de l'église d'Ancombe. Très bien, dit Tony en descendant de voiture. Il y a un écriteau jardin ouvert accroché à son portail. Ici aussi, ils doivent avoir une journée où ils les font visiter au public. Elle va penser que nous continuons à la traquer, objecta Simon. Tant pis, il y a pas mal de gens dans son jardin, nous pouvons passer inaperçus. Mais elle, je ne la vois pas, viens. Tony tendit à Simon la photo en couleur d'un grand plan d'aconite. Ça s'appelle l'aconite ou le tulou? Demanda-t-il. Les deux, répondit Tony. J'aime bien Tulou, parce que ça fait plus vénéneux. Son téléphone sonna et elle le tira de la poche de son short. Simon l'entendit répondre. Oui, Agatha. Quoi? Vous êtes sûre? Et vous y croyez? Quand elle eut raccroché, elle expliqua. Il semblerait que la meurtrière soit Victoria Bannister, du moins c'est ce que croient les policiers. Qu'est-ce qui leur a mis cette idée en tête? Quand ils ont desserré les poings de son cadavre, elle tenait de l'aconite. Et elle a laissé un mot où elle dit qu'elle a une mort sur la conscience. On a aussi trouvé 2 plans d'aconite dans sa remise avec beaucoup de feuilles arrachées. « Je n'y crois pas, » dit Simon. « Sa mort est un horrible assassinat. » « Agatha m'a dit qu'elle lui avait avoué avoir tué le chien de sa voisine, » révéla Tony. « Suppose que quelqu'un l'ait su. Une dame aussi connue que Victoria dans le village n'aurait pas pu affronter cette honte. D'un autre côté, dans son mot, elle parle d'une mort, pas de plusieurs. » Tu peux imaginer Victoria assommant Tremond et le balançant dans le canal? C'est ridicule. Mais tu sais, la police est sous pression à cause des médias. Elle ne cherchera pas d'autre solution. Oh, voilà Gwen Simple à sa porte, mais explorons quand même son jardin. Une fois de plus, Mrs. Simple avait l'air tout droit sortie d'un tableau médiéval, avec son visage blafard comme celui d'un spectre, son long nez et ses yeux marrons inexpressifs sous de lourdes paupières. Elle portait une longue robe d'été en soie, ornée d'un motif tourbillonnant vert et or, et se tenant très droite, les regarda entrer dans son jardin et marcher lentement de fleur en fleur, de plante en plante et de buisson en buisson. « Cette Gwen me fait froid dans le dos, » murmura Simon. « Mais elle n'aurait jamais eu la force d'assommer et de transporter Tremond. » « Non, mais elle est du genre à ensorceler un homme pour qu'il le fasse à sa place, » dit Tony. Gwen Simple s'était avancée dans le jardin et parlait à un homme de haute taille et d'allure athlétique. Il s'approcha de Tony et de Simon et grommela. « Fichez le camp d'ici. Mrs. Simple n'en peut plus des détectives et des flics qui lui pourrissent la vie. Des gardes pissés ou c'est moi qui vous flanque dehors ?»« Tu vois ce que je veux dire ?» dit Tony quand ils eurent battu en retraite. Ce soir-là, tandis que Roy Silver était assis dans le salon d'Agatha et passait désespérément d'une chaîne d'information à l'autre dans l'espoir de se voir en train de parler à la presse, en pure perte, Simon arrivait chez Ruby à Oxford. Il avait une bague de fiançailles dans sa poche et tenait à la main un gros bouquet de roses. Ruby lui ouvrit, mais détourna la tête pour éviter qu'il l'embrasse. « J'ai appris la nouvelle, » dit-elle sèchement. « L'affaire est résolue. Ce n'est pas une bonne idée de nous voir ce soir, Simon. J'ai eu une dure journée, je suis fatiguée. Tu peux revenir une autre fois ?»« L'affaire est très loin d'être résolue, » dit Simon sans cacher son expression blessée et déçue. Deux enfants surgirent derrière Ruby et le regardèrent avec des yeux vides. « Quoi ?» dit la jeune femme, soudain souriante. « Entre, assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux dire ? L'affaire n'est pas résolue. » Elle le précéda dans la cuisine. Bien qu'elle l'ait invité à dîner, Simon remarqua avec amertume que rien n'indiquait qu'elle ait préparé un repas. Le garçon, Jonathan, lui demanda. « Vous nous avez apporté des cadeaux ?»« Non, désolé, » répondit Simon. « Allez plutôt regarder la télé, » ordonna Ruby. « Vous avez une demi-heure avant de monter vous coucher. » Les deux enfants s'éloignèrent en traînant les pieds. « Alors ?» interrogea Ruby d'un ton pressant. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Simon lui raconta que Victoria Bannister avait tué le chien de sa voisine et qu'Agatha avait la certitude que quelqu'un avait menacé de la dénoncer. Quelqu'un qui avait laissé de l'aconite chez elle et elle s'était suicidée en écrivant quelques lignes, à moins qu'on ne l'ait contrainte à les écrire. Ruby se leva et revint avec un calepin puis commença de prendre des notes avec application. Simon eut l'impression de se retrouver dans une salle d'interrogatoire à force de s'entendre poser question après question. Enfin, elle s'adossa à sa chaise et lui sourit. « Elle est vraiment futée, cette Agatha Raisin ?» demanda-t-elle. « Parfois, on pourrait croire que non, mais elle tâtonne, elle s'obstine malgré ses erreurs, elle ne lâche jamais l'affaire, et elle est douée d'une formidable intuition. » « Restent les meurtres de Tremond et de Erise, » observa Ruby. « Tu pourrais me présenter à ta patronne ?»«
Oui, bien sûr, quand ?»«
Pourquoi pas tout de suite ?»
Et notre dîner, protesta Simon.
Oh, ça peut attendre. Elle se pencha et le gratifia d'un long baiser sur les lèvres. Téléphone-lui donc. Agatha répondit qu'elle ferait volontiers la connaissance de Ruby. Charles était rentré chez lui et Roy se lamentait de ne pas faire les gros titres des chaînes d'infos en continu. Ruby emmena ses enfants chez sa mère, qui habitait au coin de la rue, mais avant que Simon et elle ne prennent sa voiture, le jeune homme lui dit non sans quelque embarras.
Il faudrait mieux ne pas parler à Agatha de ce qu'il y a entre nous. Elle peut se montrer assez tyrannique.
Ne t'inquiète pas, motus et bouche cousue.
Nous nous sommes déjà rencontrés, dit Agatha à Ruby.
Simon m'a expliqué que vous vous intéressiez encore aux assassinats. Entrez. Je vous présente un vieil ami à moi, Roy Silver. Roy, voici le sergent Ruby Carson.
Il y a des journalistes dans le village, s'enquit Roy.
Je n'en ai vu aucun, répondit Ruby.
S'il y en a, ils doivent traîner autour du cottage de cette nommée Bannister.
« Je sors prendre l'air !»
dit Roy en se dirigeant vers la porte. Après son départ, Agatha suggéra d'aller s'asseoir dans le jardin car la soirée était douce. En sirotant le verre qu'elle lui avait servi,
Ruby commença à questionner Agatha, et tandis qu'elle répondait à ses questions, les yeux d'ours de celle-ci passèrent du visage de Ruby à celui de Simon, visiblement en adoration. « Oh Seigneur !» pensa Agatha. « J'ai l'impression qu'elle se sert de lui et qu'elle essaye d'en faire autant avec moi. » Mais les échanges d'informations marchent dans les deux sens et elles pourraient se révéler utiles. Et le petit Simon, qu'est-ce qu'il a ? On dirait qu'il est complètement mordu. « Reste le problème Gwen Simple ?» dit Agatha. « Je n'ai jamais cru qu'elle était étrangère au crime de son rejeton. Pour je ne sais quelle raison, les hommes ont les jambes en coton dès qu'ils la rencontrent. Je pense qu'elle se sert d'eux. Et s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est que les femmes usent de leur séduction pour parvenir à leur fin. Vous n'êtes pas de mon avis ?»«
Naturellement, » dit Ruby qui se prit aussitôt à détester cordialement Agatha.
« Vous êtes mariée ?» demanda celle-ci.
« Divorcée. »«
Des enfants ?»«
Deux. » »« Bon, merci pour cette très intéressante conversation, Mrs. Raisin. Mais il est temps que je rentre. Viens, Simon. »
Au cours du trajet jusqu'à Oxford, Simon garda le silence. Il avait faim et était complètement décontenancé. D'une certaine façon, Agatha et Ruby lui avaient donné l'impression d'être un petit garçon entre deux tantes dominatrices. La bague de fiançailles était dans sa poche, mais il la donnerait à Ruby dans des circonstances plus romantiques. Une fois garé devant sa maison, Ruby observa son visage inquiet et lui dit
« Chérie, c'est affreux la façon dont je te traite. Laisse ta petite Ruby se rattraper. »
Simon se réjouit qu'en raison de la moiteur de la soirée et de la chaleur dégagée par leurs acrobaties sexuelles sur la banquette avant, les vitres de la voiture ne tardent pas à s'embuer. Quand leur petite affaire fut achevée et que Ruby lui eut donné un dernier baiser en lui souhaitant bonne nuit, il monta dans sa voiture à lui, se demandant pourquoi il se sentait comme un écolier qui avait raté son certificat d'études et à qui un professeur compatissant venait de faire cadeau d'une pomme. Somnolente, Agatha ouvrit la porte après avoir regardé par l'œilleton et fit entrer un Simon à l'air piteux. À la lumière du plafonnier, au-dessus de la porte, ses yeux aigus observèrent ses cheveux en bataille, ses lèvres gonflées et les traces de suçon à son cou.
« Je vous sers un verre ?» lui proposa-t-elle en le précédant dans la cuisine.
« Ce dont j'ai surtout besoin, c'est de manger, » dit Simon.
« Vous savez, je n'ai rien d'un cordon bleu, » objecta Agatha.
« Vous avez des œufs ?»«
Ah oui, des tas.
Donnez-moi une poêle et du beurre pour que je me fasse une omelette. »
Avec une complaisance rare chez elle, Agatha attendit qu'il ait fini de se restaurer. Puis elle lui dit avec prudence.
« Vous avez l'air accablé. »
« Je vais vous dire ce qui s'est passé, » commença Simon. Et il lui raconta le retour à Oxford, concluant par ces mots.
« Je me sens horriblement mal, dans sa voiture, devant sa maison, et si ses gamins avaient regardé par la fenêtre, si la mamie les avait ramenés. J'ai une bague de fiançailles dans ma poche, Agatha. Je comptais la demander en mariage.
« Rapportez-la à la bijouterie, » conseilla Agatha en étouffant un bâillement.
« Mais peut-être qu'elle m'aime vraiment, » dit Simon d'un ton plaintif.
« Peut-être que c'est moi qui suis trop coincée. »
« Cette femme vous invite à dîner, » dit Agatha avec patience. « Au lieu de s'attabler avec vous, elle vous utilise comme intermédiaire pour se présenter ici et me mettre sur le grill. Ensuite, elle vous accorde une petite partie de jambes en l'air pour mieux vous tenir en laisse. Cette Ruby, c'est l'arrivisme personnifié. Et si à l'avenir, c'était plutôt vous qui vous serviez d'elle ? Nous avons besoin de bons contacts dans la police. » Est-ce que les flics ont convoqué l'une ou l'autre des personnes qui sont venues trouver Clive Tremond à son agence? Est-ce qu'il y a une caméra de surveillance dans cette rue?
Je vois.
Simon était visiblement revigoré. Il avait eu l'impression d'être le gibier. Maintenant, il pouvait endosser le rôle du chasseur. Qu'est-ce que vous éprouvez pour elle après tout ça? Lui demanda Agatha.
Je suis encore sous le choc, soupira Simon.
Vous n'auriez pas pu la repousser en lui disant que vous seriez mieux dans un lit ?
Elle m'est littéralement tombée dessus. Je pensais que nous quitterions la voiture pour aller dans la maison. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle me plante comme ça à la fin.
Vous vous êtes protégée au moins ?
Ruby avait ce qu'il fallait.
Allons, remettez-vous, l'encouragea Agatha.
Pour le moment, elle a eu ce qu'elle voulait, mais elle reviendra à la charge.
Autre chose, dit Simon.
Tony et moi, nous sommes allés chez Gwen Simple. Parce qu'il nous semblait que pour le moment, vous l'aviez plus ou moins oublié. Nous avons tenté d'explorer son jardin, mais un homme nous a flanqué à la porte.
On sonna.
« Ce doit être Roy qui revient de sa course à la gloire », dit Agatha.
Quand elle ouvrit la porte, Roy Silver était bien là, mais par-dessus son épaule, elle vit Charles qui arrivait.
« Donc, ce soir, personne n'a envie de dormir !» se plaignit-elle.
« Je repars pour Londres !» ronchonna Roy, boudeur.
« Je monte prendre mon sac !»«
Qu'est-ce qui t'amène ?» demanda Agatha à Charles.
« J'ai reçu un coup de téléphone d'Adrian Somerville. Il m'a dit que si je voulais visiter le cottage de Jill, je pouvais passer prendre les clés demain. Quand nous aurons jeté un coup d'œil, il faudra retourner le voir, Aggie. Je veux dire, est-ce qu'il savait que sa sœur vivait de ses charmes à Chicago? Et qu'est-ce qu'il peut nous révéler sur son passé? Qu'est-ce qu'il pense de son ex-mari ?»«
Je suis vannée, Charles, » dit Agatha. « À demain. »
Le lendemain, le ciel était couvert et l'air humide. Ils allèrent prendre les clés chez un agent immobilier de Manchester, en lui disant qu'ils n'avaient besoin de personne pour la visite, puis ils reprirent la route de Carsley et garèrent la voiture près du cottage de Jill Davant. Sur le devant, le jardin semblait encore plus négligé que la dernière fois où Agatha l'avait vu. Des fragments de ruban jaune, provenant du cordon de police, flottaient aux branches des buissons. Plus bas dans le village, les cloches de l'église sonnèrent. D'abord les plus aigus, puis le bourdon. Ensuite, tomba un vrai silence de dimanche à la campagne.
« Allons-y !» dit Charles
en tournant la clé dans la serrure.
« Son frère aurait pu faire un peu de nettoyage ?» gronda Agatha.
« Je m'étonne que l'agent immobilier ne le lui ait pas demandé. Il y a encore de la poudre à empreintes partout. »« Commençons par le cabinet de consultation !» dit Charles.
« Je te laisse t'en occuper, je me charge des autres pièces !» décréta Agatha.
En face du cabinet, de l'autre côté du vestibule obscur, il y avait un salon salle à manger, meublé sans originalité. Sofa et fauteuils assortis, petite table avec quatre chaises, rayonnage à livres, téléviseur, mais ni secrétaire ni buffet. Agatha songea à fouiller parmi les livres, mais décida que ce serait pour plus tard. La cuisine était dans le fond de la maison et l'on voyait que la police avait examiné tous les récipients qui avaient contenu de la nourriture. Ensuite, Agatha gravit l'étroit escalier de bois. Sur la gauche du palier s'ouvrait une salle de bain, mais le placard au-dessus du lavabo était vide. Sans doute, les policiers avaient-ils tout emporté. À côté, une chambre, mais ni vêtements ni sous-vêtements dans l'armoire et dans la commode. Le frère avait dû s'en débarrasser. Par conséquent, aucun espoir de trouver quoi que ce soit dans une poche. Ne restait qu'une pièce où Agatha découvrit une table de massage et sur les murs des planches anatomiques. Avec lassitude, elle se dit que cette visite n'était qu'une perte de temps. La police avait sûrement tout passé au peigne fin. Dans le cottage, il y avait trois prises pour téléphone sans fil, mais les appareils n'étaient plus là. À pas lents, elle redescendit les marches pour rejoindre Charles dans le cabinet de consultation.
« Tu as trouvé quelque chose ?» lui demanda-t-elle.
« Rien du tout, même pas un téléphone, » répondit Charles. « C'est seulement dans les romans que les enquêteurs trouvent des indices fixés sous les tiroirs. »«
Essayons le jardin derrière la maison, » dit Agatha.
Avec tout ce chantage, il lui fallait bien un endroit pour cacher ses petits secrets.
Je me demande si c'est elle qui a planqué son carnet de comptes dans le secrétaire de Jenny Harcourt. Ou si c'est Jenny la kleptomane qui le lui a barboté.
Ils traversèrent la cuisine pour ouvrir la porte de derrière. Charles essaya plusieurs clés et finit par trouver celle qui tournait dans la serrure.
« Ce n'était pas une jardinière !»
commenta-t-il. Ce qui s'étendait devant eux n'était qu'un quadrilatère envahi d'herbes folles avec une remise tout au fond. Le ciel était maintenant très sombre et tandis qu'ils se dirigeaient vers le petit bâtiment, un éclair déchira le ciel suivi de l'énorme craquement du tonnerre. Puis, ce fut comme si le ciel s'ouvrait en deux et une pluie torrentielle se mit à tomber. La remise n'était pas fermée à clé, et ils y entrèrent pour s'abriter de l'averse.
Est-ce que ce n'est pas Charles II qui disait que l'été anglais consistait en deux jours de canicule suivis d'un orage ?
Demanda Charles. Agatha le regarda en fronçant des sourcils courroucés, car elle avait horreur des citations. Elle lui donnait l'impression d'être plus inculte qu'elle ne l'était en réalité. Elle regarda autour d'elle. Des outils de jardin rouillés étaient appuyés au mur.
« Il y a quelque chose qui me déplaît dans cette remise, » maugréa-t-elle. « Je sens que quelque chose ne va pas. »«
Quoi ? »
Je ne sais pas.
C'est l'orage qui te rend nerveuse, dit Charles. Il n'y a rien du tout à part nous deux.
Tu ne crois pas qu'elle aurait pu enterrer des choses ? Suggéra Agatha. Je veux dire, non seulement elle a volé le portefeuille de Tristram Davant, mais elle l'a gardé ensuite. Peut-être qu'elle conservait des souvenirs de toutes les personnes qu'elle avait blousées ou grugées d'une façon ou d'une autre. Peut-être que dans cette remise, il y a une latte du plancher qui se soulève.
Mais le plancher a l'air intact, objecta Charles. Non, je te le répète, il n'y a rien.
Les flics n'ont pas creusé dans le jardin, dit Agatha, regardant par la fenêtre encrassée.
Pourquoi voudrais-tu qu'il l'ait fait? Il ne cherchait aucun cadavre, il l'avait déjà, celui de Jill. Et puis, observe bien, la terre de ce jardin n'a pas été remue depuis des années.
Nom d'un sale parasonnette! S'écria Agatha. Si tu savais comme j'en ai marre de toute cette histoire!
Calme-toi, lui dit Charles.
Regarde, il pleut moins fort. Filons vite dans la maison.
Agatha trotta en trébuchant à travers le jardin sur ses chaussures ouvertes à hauts talons. Un de ses pieds s'enfonça dans la terre boueuse en bas des marches de bois menant à la cuisine et elle tomba lourdement. Charles accourut pour l'aider à se relever.
Regarde, lui dit-elle.
Les larges marches étaient au nombre de trois et dans sa chute, elle en avait déboîté une.
Il y a quelque chose là-dessous, dit-elle avec excitation.
Elle se pencha.
Une boîte en fer.
Mets des gants, lui conseilla Charles.
Agatha tira de son sac une paire de gants en latex, les enfila, puis souleva une boîte rectangulaire en fer blanc fermée par un couvercle.
« Je l'emporte dans la cuisine, » dit-elle.
Elle entra et la posa sur la table.
« Ce n'est pas lourd du tout. Voyons ce qu'il y a dedans. »
Elle souleva le couvercle, se saisit de plusieurs objets et les étala sur le plateau de la table. Puis, elle énuméra.
« Nous avons deux Rolex Oyster, trois portefeuilles, une grosse liasse de billets en diverses devises et des photos sexy de Jill au lit avec des hommes.
Elle devait avoir un complice pour les prendre, ces photos. Et c'était une sacrée contorsionniste.
Mais ni documents ni lettres. Rien dans les portefeuilles.
Pas de cartes, mais des photos de famille dans celui-ci et dans celui-là.
Il faut prévenir la police, dit Charles.
Vraiment ? Pleurnicha presque Agatha. C'est moi qui l'ai trouvée, cette boîte.
Agatha, ces photos datent probablement du temps où elle se prostituait à Chicago. C'est important que la police remonte jusqu'à ces hommes. De cette façon, elle saura avec qui elle travaillait.
Il y a quelqu'un ? Cria une voix.
Agatha replaça les objets dans la boîte et ferma le couvercle.
Qui est-ce ?
Cria-t-elle en retour.
Moi,
dit Simon en entrant dans la cuisine.
Qu'est-ce que vous avez trouvé là ?
De toute évidence, il était à la recherche d'Agatha.
Je viens de tomber sur cette boîte, dit celle-ci.
Les larcins de Jill Davant. Il y a aussi des photos dont elle s'est sûrement servie pour faire chanter ses riches clients aux États-Unis.
Je peux jeter un coup d'œil ?
Agatha rouvrit la boîte.
Dépêchez-vous, dit-elle. Moi, j'appelle Bill Wong pour le prévenir.
Simon examina avec soin l'un après l'autre les trophées de la défunte, mais sa pensée ne cessait de le ramener vers Ruby. Il aurait aimé retrouver la Ruby de naguère, celle dont il était tombé amoureux. Il avait tenté de la joindre à plusieurs reprises depuis le début de la matinée, mais était tombé directement sur la messagerie. Il savait que s'il lui laissait un message mentionnant la découverte d'Agatha, il y aurait toutes les chances pour qu'elle le rappelle. Il se prit à rêver que la femme dure et sans scrupules de la veille au soir soit redevenue la Ruby avec qui il voulait se marier.
« Franchement, Agatha, je n'ai pas envie de poireauter jusqu'à l'arrivée de la police, » dit-il. « J'ai encore Ruby dans la tête. Ça ne vous embête pas si je file ?»